le journal Ramamba.
Présence confirmée des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur au nord-est du Congo. Le commandant des forces de la MONUC est à Entebbe pour rencontrer les hauts responsables de l'armée ougandaise. Adolfo Nosumba, ministre congolais de la Défense, annonce le désarmement pacifique ou forcé de ce rebelle ougandais. Situation sanitaire préoccupante à Zongo dans l'Équateur. 3 semaines après les inondations dans cette région, la ville n'est toujours pas assainie. Les sinistrés sont exposés à plusieurs maladies. La mesure de suspension des compagnies aériennes semble ne pas avoir d'effet à Goma au nord Kivu. Certaines d'entre elles touchées par cette mesure continuent à fonctionner normalement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La MONUC très préoccupée par la présence des rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur à Mamour, village au nord-est de la province orientale. Le commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye, est allé à Entebbe ce vendredi pour rencontrer les hauts responsables de l'armée ougandaise. De son côté, le commandant de la division est des forces de la MONUC, le général Patrick Kamert, annonce qu'une mission onusienne va être envoyée très prochainement dans la localité pour des investigations sur place, puis contacter les autorités congolaises. Le général Kamert est au micro de Paul-Richard Malengela.
Je pense que c'est un problème que nous étudions à ce moment, et dans la semaine prochaine, nous envoyons une team avec le personnel par l'humanitaire, DDAAA, FADICI, MONUC, pour investigation, pour faire investigation. Et après, le FADICI, les autorités congolaises et MONUC faire une décision qu'est-ce que c'est le futur pour ce problème.
S'agissant de la mission d'investigation à Mamour, nous l'apprenons à l'instant qu'une équipe de la MONUC se rendra déjà demain samedi. Selon le ministre ougandais de la Défense, le numéro 2 de la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur, Vincent Oti, et ses hommes ont demandé l'asile politique en République démocratique du Congo, affirmation rejetée par le gouvernement congolais. Selon le ministre de l'Information, Mova Sakani, aucune demande d'asile concernant des rebelles ougandais ni de demande d'extradition concernant des rebelles de la LRA qui se trouveraient sur le sol congolais n'a été reçue. Le gouvernement congolais, de son côté, va procéder au désarmement pacifique et, en cas de résistance, un désarmement forcé de ces rebelles. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Adolfo Nosumba Yemba, le ministre congolais de la Défense nationale. Selon lui, l'armée de résistance du Seigneur, avec son chef Joseph Kony, ont été déclarés groupes terroristes par la communauté internationale. Adolfo Nosumba est au micro de Gene Kabambi.
La réponse du gouvernement congolais, c'est le désarmement. Il que nous, aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant, de ces gens, puisque on a déjà beaucoup de problèmes. Notre pays ne peut pas constituer un sanctuaire des gens, des malfaiteurs ou des malfaits. Vous savez que la LRA a déjà été déclarée comme une organisation terroriste. Et avec l'aide de la MONUC, je crois, d'ici dans les jours, dans les heures qui suivent, cette question sera réglée.
De quelle façon?
On va les désarmer. S'ils n'acceptent pas un désarmement pacifique, si je veux dire, on doit utiliser la force.
On s'est venu à demander leur extradition. Est-ce que le gouvernement congolais va les extrader chez eux?
Je ne parle pas maintenant dans les détails, donc je ne maîtrise pas tous les aspects. Je ne sais pas si on a signé un pacte d'extradition avec l'Ouganda. On n'a aucun intérêt à garder ces gens-là. Si on les désarme à travers la communauté internationale, nous allons les rendre. On n'a vraiment pas d'intérêt de garder ces gens-là chez nous. Sachez qu'à tous les niveaux, personne ne veut que ces gens-là viennent avec toutes les atrocités qu'ils ont commises, de les avoir sur notre terre.
Le ministre de la Défense exprimé en marge de la cérémonie de l'inauguration de la première salle informatisée du groupement des écoles supérieures militaires qu'il a présidé conjointement avec l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Georges Serre. Cette cérémonie a été qualifiée d'illustration des retombées attendues de la signature de la Convention de coopération militaire du 16 juin dernier. La mise en place de cette installation a été achevée sous la direction du colonel Jean-Yves Gattefossé, coopérant militaire technique affecté à Kinshasa depuis août 2004. Ajoutez à cela l'expertise technique du major Christian Denis, spécialiste venu de France pour mener à bien cette mission particulière. Le major Christian Denis est interrogé par Eugène Kabambi.
Comment ça va fonctionner? Bon, c'est une salle avec 30 ordinateurs, dont deux ordinateurs sur Internet satellite. C'est une salle qui fonctionne, elle a la particularité de fonctionner en réseau mais sans fil, nouvelle technologie qu'on voit beaucoup en Europe et dans le reste du monde. Donc il n'y a pas de câble, rien du tout. Et ça nous permet surtout d'avoir un serveur et de que les gens puissent communiquer entre eux sans aucun problème. Donc c'est une salle de très haute gamme.
Alors c'est uniquement pour la ville de Kinshasa ou bien toutes les données des provinces, la RDC, c'est
cette salle va être ouverte à tous les militaires et civils de la défense. Donc après, c'est aux responsables de définir l'utilisation de la salle.
Quel est l'objectif fondamental de cette structure?
L'objectif fondamental de la salle, c'est la formation des cadres. La formation des cadres et l'apprentissage de la bureautique, parce que chacun sait qu'actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans informatique.
Les anciens miliciens démobilisés à Bounia, dans l'Ituri, sont mécontents. Ils réclament le paiement mensuel de $25 américains par la CONADER. De plus, ils disent que l'organisme n'a pas encore accepté de financer aucun de leurs projets de réinsertion communautaire. La grogne s'installe et certains d'entre eux menacent même de retourner dans leurs anciennes milices. Blaise Chindani.
Une centaine de démobilisés se disent laissés pour compte par la CONADER. D'abord, ils ont eu de la difficulté à apercevoir leur filet de sécurité de $60 après avoir déposé leurs armes. Et aujourd'hui, ils se plaignent du retard de leur paiement mensuel de $25 qui doit servir à leur réinsertion communautaire.
On nous a promis de nous payer par mois $25, mais jusqu'à aujourd'hui, ça suit. On nous avait dit qu'on va nous financer pour notre projet, mais jusque-là, il n'y a rien. On ne sait quoi faire. Maintenant, nous avons encore l'idée de rentrer encore pour aller former encore autre rébellion parce que nous ne voyons pas la vérité des choses qu'on nous a promises.
Par ailleurs, les démobilisés de l'extérieur qui ont choisi de vivre à Bounia se plaignent quant à eux de la position de la CONADER qui exige leur retour dans leur zone de démobilisation. Or, rentrer dans leur communauté de base serait s'exposer au règlement des comptes de leurs anciens compagnons pour trahison selon les démobilisés. Contacté à ce sujet, la CONADER Bounia par son chef de bureau, le colonel Doukou, affirme qu'il ne relève pas de sa compétence de s'occuper des problèmes de sécurité que connaissent ses anciens miliciens. Mais certaines ONG de défense des droits de l'homme qui sont en contact avec les ex-miliciens démobilisés reconnaissent le problème. Godem Piana de l'ONG Justice Plus de Bounia.
Si aujourd'hui il y a un autre groupe armé qui s'est créé et qui dispose des armes, il peut facilement emballer tous ces jeunes gens-là. Nous rentrerons à la case départ.
Si la réinsertion sociale des ex-miliciens désarmés ne réussit pas, cela risque de porter un coup à la fragile stabilité de l'Ituri, actuellement assurée par la MONUC, les FARDC et la police nationale. Bounia, Blaise Chindani, Radio Okapi.
Un casque bleu de la brigade du Sud Kivu est décédé accidentellement ce matin dans le camp du contingent pakistanais d'Adi Kivu suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. Deux autres casques bleus ont été blessés dans l'accident. Le corps de leur camarade décédé a été évacué vers Entebbe en Ouganda où il repartira vers le Pakistan. Des honneurs militaires lui ont été rendus à l'aéroport de Bukavu. La MONUC présente ses condoléances à la famille de la victime. Province de l'Équateur, aucune assistance humanitaire n'est encore arrivée aux sinistrés de Zongo 3 semaines après les inondations. Certaines familles regagnent petit à petit leurs habitations malgré l'humidité. D'autres, dont les maisons ont été complètement détruites, demeurent toujours dehors. Selon le maire de Zongo, la ville est très sale et cela entraîne une recrudescence des cas de malaria. Témoignage du docteur Colin Lissimo, médecin chef de zone de santé de Zongo. Il est joué en téléphone par Ghislaine Ntobo.
Oui, comprenez, même avant l'inondation et la malaria toujours résiste dans un monde endémique. Et avec l'inondation, comprenez, la montée des eaux, il y a des eaux stagnantes qui restent. Ils servent maintenant des milliers de proliférations de moustiques. Jusqu'à la fin du mois d'août, nous avons déjà enregistré 585 cas de paludisme jusqu'à la troisième semaine du mois. Nous avons déjà enregistré 367 nouveaux cas de paludisme qui s'ajoutent sur les 585. Donc ça, ce sont l'hôpital et les structures périphériques qui ont déclaré. Donc sur 11 structures préexistantes, il n'y a que 7 structures qui ont déclaré. Jusqu'à la fin du mois, si toutes les structures arrivaient à déclarer, le nombre de cas se verra augmenter. Nous avons un problème sévère de pénurie en médicaments. On ne sait pas tellement contenir la situation parce que nous avons été en partenariat avec une agence humanitaire italienne qui nous a aidé depuis 2003. Les décès enregistrés là, ils sont souvent dans la tranche de 0 à 5 cas. Et au décours d'une anomie qui s'est greffée, ils vont aussi le paludisme. Relativement moins partie, c'est d'intérêt à 5 cas. Donc, j'ai enregistré environ 12 décès d'anomie. J'ai récupéré à 5 ans 50 ans.
Les femmes ministres et parlementaires de la RDC vont développer un argumentaire sur la parité hommes et femmes dans la loi électorale. C'est l'une des résolutions prises ce vendredi à l'issue de la session de formation du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. La dite session a eu lieu dans la cathédrale du centenaire à Kinshasa. Pour Madame Faïda Mwangiloa, ministre de la Condition féminine et famille, l'implication de la femme est un atout majeur pour la réussite du processus électoral. Au Kassai occidental, la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme dénonce le comportement incivique de certains habitants du secteur de Moussoissoa dans le territoire de Kazumba. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, un homme a été tué par balle la semaine dernière pendant qu'il était à la chasse. Le présumé assassin est en fuite et pour se venger, la famille de la victime a cautionné l'arrestation du père de l'auteur du crime et a brûlé 5 maisons. À Goma, plus d'une semaine après la suspension par le ministère des Transports et Communications des licences d'exploitation d'une trentaine des compagnies aériennes, certaines compagnies frappées par cette mesure continuent d'opérer normalement. Les autorités locales de la régie des voies aériennes disent n'avoir jamais reçu de leur hiérarchie la liste des compagnies dont la licence d'exploitation n'a pas été renouvelée. Jean-Paul Bassila.
Il était exactement 12h25 lorsqu'un Antonov 12 affrété par la compagnie Service Air atterrissait ce jeudi à l'aéroport de Goma en provenance de Kinshasa. Cet avion venait il y a 2 semaines de reprendre ses vols après avoir été immobilisé pendant plus de 2 mois au sol suite à une panne au niveau des trains d'atterrissage. Service Air, la compagnie aérienne qui l'utilise, figure sur la liste des compagnies dont la licence d'exploitation n'a pas été renouvelée par le ministère des Transports. À côté d'elle, il y a aussi les compagnies Cetraca Aviation, Saner Service, Cargobull Aviation qui, à partir des Goma, continuent d'opérer normalement. Selon ces agences, elles n'ont jamais été informées que leur licence d'exploitation était suspendue. De leur côté, les autorités locales de la RVA disent n'avoir jamais obtenu de leur hiérarchie la liste des compagnies aériennes dont les licences d'exploitation n'ont pas été renouvelées. Nous avons cherché à joindre le ministre des Transports et Communications, Eva Mwakasa, mais sans succès. Entre-temps, à Goma, nombreuses autres compagnies aériennes opèrent tout en ne figurant ni sur la liste des compagnies frappées d'interdiction, ni sur celles qui sont autorisées. De Goma, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Disma Kitenge, président du groupe Lotus, une association de droits de l'homme basée à Kisangani, a été l'objet d'une agression la nuit dernière. Des personnes non identifiées ont mis du feu dans sa maison après avoir réussi à casser la fenêtre principale de sa maison. Une enquête est ouverte depuis ce matin par la police nationale pour identifier les auteurs. Anselme Mansoua.
Selon la victime, c'est vers 3h du matin que lui et sa femme ont remarqué la fumée envahir les chambres à coucher. Et c'est après avoir réussi à maîtriser le feu qui gagnait déjà le plafond que Dismas a remarqué que l'inconnu a d'abord cassé les vitres de la fenêtre avant de mettre le feu au rideau. Un rideau en soie d'une largeur de 5 mètres et dont la hauteur touchait presque le pavement de la maison, ce qui a permis au feu en progression de brûler toutes les chaussures qui étaient sous les rideaux. Le collectif des ONG des droits de l'homme à Kisangani, par un communiqué de presse publié ce matin, condamne cet acte qui, pour lui, est une manœuvre perpétrée par des gens qui veulent faire taire les activistes des droits de l'homme. Pierre Kibaka, modérateur du collectif.
Depuis un certain moment, nous l'avons remarqué à travers tous les pays, ce n'est pas seulement à Kisangani. Au début du mois d'août, il y a eu l'assassinat de notre collègue Pascal Kabungulu à Bukavu. À Kinshasa, notre collègue Paul Sampo est l'objet des menaces. Et à Kisangani, la résidence de Dismas, c'est la deuxième fois qu'on vient d'attaquer cette maison. Nous sommes sûrs que ce sont des actes prémédités et il y a certaines personnes qui veulent justement faire taire certains activistes des droits de l'homme dans les pays.
L'enquête lancée depuis ce matin par la police nationale est toujours en cours. Notez que ça c'est le deuxième forfait que connaît Dismas Kitenge depuis cette année. Le premier remonte au mois de juillet dernier où il a été visité la nuit par les hommes en uniforme qui ont réussi à emporter plusieurs biens de valeur. Kisangani, Anselme Mansoua, Radio Okapi.
Création à Lubumbashi d'un réseau provincial des observateurs des manifestations publiques. Il s'agit des hommes et des femmes qui vont désormais surveiller l'organisation et le déroulement des manifestations dans la rue et sur des endroits publics au Katanga. C'est l'une des principales recommandations faites par les participants à la table ronde organisée par l'Observatoire national des droits humains à Lubumbashi du 19 au 21 septembre 2005. Timothée Mbia, secrétaire du réseau, fixe les objectifs que s'assigne le réseau. Il est au micro de Donat Chimboche.
Le réseau provincial d'observation des manifestations publiques a comme objectif principal d'observer, de surveiller tous les comportements à la fois des manifestants et des agents de l'ordre promis pour l'encadrement des manifestants. Chaque fois que l'observatoire se déployera sur le terrain pour observer la manifestation, elle aura à faire un rapport et dans son rapport, elle va étudier aussi le caractère de la légalité de la manifestation. Donc, l'étude des dossiers, l'étude des papiers ou l'étude de la légalité de la manifestation, c'est une étude qui se fera par la suite, elle est secondaire.